Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
Et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews pour Punchline. On est avec nos invités pour débattre de l'actualité politique, sécurité. Karim Zerébi est la consultante CNews. Bonsoir Karim.
Bonsoir.
Céline Pina, fondatrice de Vivre la République. Merci d'être là. Alexandre Devecchio, rédacteur en chef adjoint au Figaro. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir.
Et nous a rejoint Jean Garrigue, président du comité d'histoire parlementaire. Bonsoir mon
Bonsoir.
Cher Jean. On aura besoin de vos lumières pour parler de cette histoire politique qui s'écrit sous nos yeux, celle de la 5e République en 2022. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'Emmanuel Macron n'a pas convaincu ni les Français, ni les oppositions politiques, mais la deuxième partie était un peu évidente. On a fait un petit sondage sur Twitter. Est-ce que vous avez été convaincu par l'intervention à la télé d'Emmanuel Macron ? Non à 92%. Bon, les Français ne sont pas tendres avec le président qui, visiblement, n'a pas su leur dire quel cap il comptait adopter dans les prochaines semaines. Comment il allait faire voter ces lois et surtout quelles lois ? On vous a posé la question. Écoutez vos réactions. Il vous demandait un peu plus de clarté quand même dans le propos.
Bah écoutez, comme d'habitude, beaucoup de compromis, mais ça ne veut pas dire grand-chose.
Je viens de l'entendre et encore une fois, je suis absolument subjuguée. Il nous parle d'avoir des accords politiques sur des changements et des lois, mais comme il n'a pas fait campagne, quels changements et quelles lois ? C'est quoi son axe vertical ? Qu'est-ce qu'il veut faire de la France ? Donc c'est pour voter de petites lois, petit à petit, c'est pas comme ça qu'on construit un pays.
La situation est totalement anormale, puisqu'il faudrait 280 députés et qu'il y en a 240. Donc la première tâche du gouvernement consistera vraisemblablement à essayer d'éviter la motion de censure qui ne manquera pas d'arriver dès que l'Assemblée sera installée.
Voilà pour les avis éclairés de nos concitoyens. Jean Garrigue, qu'est-ce qu'il veut faire de la France ? C'est une question qui revient absolument tout le temps. Qu'est-ce qu'il veut faire, Emmanuel
Macron ?
Déjà,
pardon, ils ne sont pas tout à fait éclairés parce qu'ils disent des bêtises tous, mais ce n'est pas.
Non,
mais
on ne peut pas mépriser non plus les gens.
Ah, mais pas du tout. Mais,
okay,
mais,
d'accord.
Mais
on peut écouter ce qu'ils ont
obligé
à dire.
Non, mais bien sûr.
Et pas forcément
pas
dire que ce sont des
bêtises. Il faut échanger. Mais ce qu'ils ont dit là, ce qu'on a entendu, n'était pas conforme à la réalité. Donc moi, j'essaie quand même.
Ils ont le droit de donner des opinions.
Mais en revanche.
On a tous le droit.
En revanche, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il n'est pas trouvé très clair ce que demandait le président de la République. Parce que le président de la République ne sait pas encore ce qui va se passer lui-même. C'est-à-dire qu'il n'est plus du tout le maître des horloges. Je trouve ça très bien, personnellement, parce que ça va nous permettre de sortir de cette espèce de spirale de la Ve République qui avait abouti à une impasse. On avait un président tout puissant et une chambre d'enregistrement parlementaire. Donc je pense qu'il y a là une fenêtre ouverte pour une respiration démocratique qui, ne serait-ce qu'au Parlement, me semble très intéressant.
Et qu'est-ce qui vous a chiffonné là, dans ce qu'ils ont dit là ? C'est l'histoire du 49-3, c'est ça ?
Non, par exemple, de la motion de censure, parce qu'il est très vraisemblable que personne ne pourra voter une motion de censure à la majorité absolue.
Elle sera proposée, Jean.
Oui, non,
la France Insoumise a déjà dit qu'elle
sera proposée. Bien sûr qu'elle sera proposée, mais elle ne sera pas votée. Quand on parle. Si, non, mais si je peux juste terminer ma phrase, parce que moi j'ai laissé parler la dame. Donc, de toute façon, j'étais bien obligé. Non, mais.
Je veux dire qu'il
y a beaucoup d'imprécisions dans les esprits, mais parce qu'il y en a aussi dans l'esprit du président de la République. Ça, je ne le nie pas. Il a ouvert la porte à deux hypothèses. Celle de la grande coalition me semble à exclure. En revanche, l'idée de travailler texte par texte et des propositions, en réalité, c'est vrai qu'on ne les a peu entendues pendant la campagne, même quasiment pas entendues, mais elles existent. Elles existent. Il y a un programme, il va y avoir une loi sur le pouvoir d'achat, etc. Non, non, mais il y a des choses, et ce sera intéressant de confronter, et sur cette démarche-là, moi, j'y suis pas hostile, de confronter ce qui est pour l'instant le programme du gouvernement, je parle pas du président de la République, parce que c'est le gouvernement qui va présenter un programme, et puis de l'autre, le programme des différents partenaires, et voir comment texte par texte, on va pouvoir essayer de trouver des compromis. Parce que je rappelle juste que nous, on s'est habitués sur la Ve République à ce qu'il n'y ait pas de compromis. Hein. Et d'ailleurs, la bipolarité qui a explosé en 2017, elle est venue de ça aussi. On l'a un tout petit peu oublié. C'est pas né avec Emmanuel Macron. Mais cette culture de compromis, elle a existé pendant 150 ans, sous la 3e République, sous la 4e République. Elle a existé au moment où Michel Rocard
était. Textes,
et ça a permis de voter des lois capital pour notre démocratie. Donc je veux dire que revenir à ça, alors maintenant, on va voir comment les promesses vont être tenues, pas tenues, si les gens vont jouer le jeu, mais revenir à ça, au moins pour moi, c'est quelque chose de positif.
Karim, pas d'accord.
Non, mais il y a un double besoin de clarté dans l'esprit des Français, on le voit bien. Le premier besoin de clarté, c'est le projet du président de la République et du gouvernement. Donc les Français estiment qu'il y a un flou artistique. On n'a pas eu la campagne présidentielle que nous estimions. Et cette campagne législative, elle s'est faite plus dans des oppositions que dans une démarche d'adhésion à un programme clair, lisible, audible pour tous. Donc, et ce programme-là, il va bien falloir à un moment donné que le gouvernement le présente. C'est normalement le discours de politique générale du 5 juillet prochain. Exactement. C'est à peu près aux alentours de cette date-là. Donc, mais aujourd'hui, c'est vrai que les Français sont dans un flou, là, à ce niveau-là. Ils ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Donc, ni sur le plan social, ni sur le plan économique, ni sur les réformes sécuritaires, ni sur la gestion des flux migratoires. Quelle sera la politique du gouvernement précisément ? Nous ne le savons pas. Même nous, observateurs politiques avisés. Donc, alors, imaginez les Français.
Avisés
parce que passionnés. Parce que passionnés. Donc, pardonnez-moi, effectivement, si c'était un peu présomptueux.
Mais
deuxième flou pour les Français, c'est comment le gouvernement va pouvoir gouverner et comment les lois vont être pouvoir être entérinées à l'Assemblée nationale. Et là, l'intervention du président n'a pas été convaincante, force de le constater. Il a remis aux oppositions la responsabilité de la situation. Attendez, excusez-moi, c'est un peu court quand même. On attendait effectivement d'un président qui démontre, par une forme d'humilité, de posture d'ouverture claire, le fait qu'il n'allait pas dire « dans trois jours, à mon retour, effectivement, j'attends que les oppositions se prononcent ». Non, c'est « nous allons engager un travail de main tendue, ne va pas se faire du jour au lendemain, j'espère que cela suscitera de l'adhésion ». Bon, voilà, je trouve que sur la forme, il a été plutôt maladroit et il peut avoir été un peu incompris. Malheureusement, comme à l'habitude. Donc, et c'est ça qui fait défaut. Le projet politique et la manière de gouverner. Il n'y a aucune réponse aujourd'hui qui a émergé de la sortie du président de la République sur ces deux questions majeures.
On a moins senti la main tendue peut-être que la manipulation. C'est-à-dire l'impression qu'un certain nombre de personnes ont pu ressentir, c'est qu'en fait Emmanuel Macron inversait en gros la charge de la preuve et au lieu de se positionner lui et de faire des propositions, y compris parce que si on doit voter au cas par cas, c'est qu'est-ce qui paraît important et pourquoi c'est essentiel pour la France et pourquoi on peut dépasser certaines appartenances pour le voter. Là-dessus, il n'a pas su le verbaliser, il n'a pas su le dire. Donc du coup, on avait l'impression que le but du jeu étant de faire porter la responsabilité d'un éventuel blocage sur l'opposition, alors qu'en fait, il en est parfaitement comptable. Et là-dessus, ça pouvait être vu comme très peu rassurant par les Français. Et ensuite, c'est relativement peu rassurant aussi, parce qu'on sait que quelque part, il a les moyens de faire passer un certain nombre de lois, puisque à partir du moment où il a malgré tout une majorité relative, en tout cas le groupe le plus important, il suffit qu'il obtienne un non-vote ou de l'abstention pour pouvoir faire passer un certain nombre de lois. C'est plus facile d'obtenir des gens qui ne se positionnent pas plutôt qu'un oui ou un non ferme. Donc il a malgré tout un certain nombre de marges de manœuvre dans la façon dont il va proposer la loi. Et aujourd'hui, il fait clairement comme s'il était pris en otage et comme si lui était un arbitre au-dessus de ces contingences-là. En fait, la claque que viennent de lui envoyer les Français montre qu'il n'est plus un arbitre. Ils l'ont...
Il est quoi ?
En fait, ils veulent qu'ils mettent les mains dans la pâte, ils veulent qu'ils se mouillent un petit peu.
Que deux tiers des Français sont très contents de la situation et de cette majorité relative qu'il a au Parlement.
Oui, ils l'ont fait tomber de son piédestal et ils l'ont remis à la hauteur.
Les Français, ils veulent du débat politique.
Et dans ce régime parlementaire, il est sans doute le premier parmi les pairs, mais la verticalité n'est plus là. Et s'ils l'ont fait chuter pour la verticalité, c'est parce qu'ils ne veulent pas d'autorité, au contraire, ils sont en quête d'autorité, mais ils ont eu le sentiment que puisqu'ils ne l'exerçaient pas, ils ne la méritaient plus.
Allez, une toute petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline. On continuera à débattre évidemment de ces sujets importants et puis on parlera de sécurité aussi. À tout de suite dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews.
Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
On se retrouve en direct sur Europe 1 et sur CNews dans le plateau de Punchline. On est avec Karim Zerebi, consultant CNews. Nous a rejoint le commissaire David Lebars. Bonsoir, commissaire. Secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale, UNSA. Nous sommes avec Alexandre Devecchio du Figaro. Jean Garrigue, comité d'histoire parlementaire. On parle un peu de politique. On va parler de sécurité parce qu'il y a beaucoup de sujets sécurité avec vous, commissaire. Mais d'abord, encore un mot de politique. On a vu il y a quelques instants que les Français n'ont pas été convaincus par le discours d'Emmanuel Macron. Eh bien, les partis politiques non plus. On va écouter les réactions des uns et des autres avec Geoffrey Defferre. Et on en débat ensuite.
C'est un nouveau revers pour le chef de l'État. Après avoir perdu la majorité absolue à l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron a pris la parole pour éviter une paralysie des institutions. demandant aux partis d'opposition de clarifier dans les 48 heures la manière de bâtir des compromis. Leur réponse ne s'est pas fait attendre. Pour Manuel Bompard, député LFI et successeur de Jean-Luc Mélenchon à Marseille, le président a posé un ultimatum au groupe parlementaire.
Sur cette base-là, il est évident que pour notre groupe, qui a mené deux campagnes électorales en opposition à ce projet, il est bien évidemment impossible que nous participions à la mise en œuvre du projet du président de la République.
Boris Vallaud, nouveau chef du groupe socialiste à l'Assemblée, souhaite rappeler au président Macron comment il a été élu.
Lui rappeler qu'il a été élu moins sur son programme que, que contre l'extrême droite et que nous avons voté à gauche pour lui. Il est donc d'abord de sa responsabilité de dire à quel compromis lui il est prêt.
Fraîchement élu chef des députés RN, Marine Le Pen enfonce le clou.
Lorsqu'il fait reporter la responsabilité sur les partis d'opposition de devoir faire un premier pas, je crois qu'il n'a pas compris ce qui s'est passé en fait. Ce qui s'est passé, c'est que c'est à la majorité de faire le premier pas pour amodier son projet, pour tenir compte précisément de l'avis des électeurs.
Dans un tweet, Olivier Marleix, le nouveau patron des députés LR à l'Assemblée, a signifié à Emmanuel Macron qu'il n'aurait pas de chèque en blanc. La balle est donc de nouveau du côté du président.
Allez, un dernier mot là-dessus sur la situation politique, Jean Garrigue. Risque de paralysie, d'immobilisme, le pays
pas.
Sans réforme,
j'y crois pas du
au
tout.
Bord du chaos.
Là, on a un jeu de bonneteau, un jeu de dupe. En fait, Macron qui dit c'est pas moi qui vais bloquer, l'opposition c'est lui qui bloque. Et par derrière, il se passe des choses dans la coulisse, des négociations. Gérard Larcher a vu le président quelques mois. Et quand Gérard Larcher, le président de la République...
Le président du Sénat, de droite.
Le président du Sénat, c'est important. Parce que c'est lui qui est capable de négocier ce qui peut se passer du côté des LR. Non, moi, je pense qu'il faut essayer de faire... Il faut que tout le monde se rende compte qu'on est quand même là dans une crise majeure, non seulement de régime, de nos institutions, mais de la démocratie, qu'il faut absolument ramener les Français vers la politique. Et que donc, pour ça, à situation exceptionnelle, attitude exceptionnelle...
Mesure exceptionnelle,
le président jupitérien doit descendre de son Olympe, admettre ses responsabilités... Amaudier, comme l'a dit fort justement
Marine
Le Pen.
J'aime bien ce mot-là, amaudier.
Amaudier,
c'est pas modifier, c'est amaudier.
Son programme, essayer de négocier. Alors bon, il est trop tard pour faire un contrat de gouvernement à l'allemande, bien sûr, et on n'est pas non plus dans le cas, malheureusement, des lendemains de la Seconde Guerre mondiale, où ce qui s'est passé était le fruit déjà d'un travail de 2 ou 3 ans avec le Conseil national de la résistance. On est dans une situation différente. En revanche, essayer de travailler texte par texte et avoir une vision assez claire par une négociation avec les partis au départ de là où on pourrait aller, moi, ça me paraît quand même, aujourd'hui, je vois pas d'autre solution.
Moi, j'aime pas l'expression crise qui est utilisée par Jean Garrigue. Je crois pas que nous soyons dans une crise. Nous sommes dans une juste redéfinition de ce que doit être la place du Parlement. Et les Français en avaient assez de voir cette chambre telle une chambre d'enregistrement où les débats, finalement, n'avaient pas vraiment lieu, où les amendements de l'opposition étaient balayés d'un revers de main et où les parlementaires de la majorité... Voter le doigt sur la couture. Non, mais ce n'est pas une crise, ce que nous vivons.
Au-delà de ce déséquilibre institutionnel et de ce qui se passe au Parlement,
pourquoi c'est
de
pas
non
une crise
respect du Parlement, ça entraîne une crise de confiance envers la
c'est
démocratie.
Ce n'est pas une crise parce que ça va obliger ceux qui nous gouvernent en gouvernant, en respectant les institutions républicaines.
Très bien.
Ce qui n'était pas le cas. Donc on ne peut pas parler de crise quand on parle de respect des institutions républicaines. Donc ce serait un non-sens. Donc ce qui provoque une crise, c'est de gouverner à la verticale. C'est de gouverner avec un seul homme tel un monarque. Ça provoque une crise. Donc, et on va en sortir. Parce qu'aujourd'hui, les Françaises et les Français ont émis le souhait d'avoir des sensibilités politiques différentes qui puissent débattre enfin au Parlement. Et que les compromis auxquels tu appelles, mais pas l'Allemande, parce qu'à l'Allemande, on met 8 mois pour faire un contrat de gouvernement. Il y a une autre culture, ça n'est pas la nôtre. Moi, j'ai rencontré au Parlement européen. Donc, il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. En revanche, on peut avoir effectivement des alliances donc de projets, mais ça veut dire qu'il va falloir accepter les amendements de l'opposition.
Chose
auxquelles nous ne sommes pas habitués. Et le président en premier lieu.
En est-il capable ?
C'est ça.
Est-ce qu'il est capable d'accepter ça, le compromis, la négociation ?
C'est une question qui
a été posée ce matin à Michel Onfray. Il est invité de Sonia Mabrouk sur Europe 1. Écoutez ce qu'il dit d'Emmanuel Macron.
Je suis très étonné, c'est une façon de parler, parce que je sais qu'il est comme ça depuis le début, par l'aspect psychorigide du personnage. C'est-à-dire qu'il a déjà, pendant 5 ans, perdu toutes les élections, le premier mandat, et il n'a rien fait. À chaque fois qu'il perd une élection, il reste. Tous ces gens-là ne disent que du bien du général de Gaulle. Le général de Gaulle, quand il perdait une élection, soit il démissionnait, soit il changeait de Premier ministre, soit il prenait la décision de dissoudre l'Assemblée nationale. Ce sont les possibilités offertes par la Constitution. Tous ces gens-là, depuis Mitterrand, la cohabitation, depuis Chirac, disent, depuis le référendum de 2005, « je perds l'élection, je reste ». Et je perds toutes les élections, je reste à chaque fois.
Voilà, Michel Onfray, ce matin sur Europe 1, Alexandre Devecchio. Il a un côté psychorigide, le président ?
Je ne sais pas, mais je sais que la Ve République est bien faite, qu'il y a un mélange de très grande verticalité qui permet au chef de l'État d'être efficace, mais que le général de Gaulle en avait une pratique où il y avait un mélange de verticalité et d'horizontalité. C'est-à-dire qu'il essayait de vérifier qu'il était toujours bien légitime, notamment avec les référendums. Il en a fait 5 en quelques années, en 10 ans, à peu près un tous les 2 ans. Et quand il en a perdu un, il a fini par partir. Donc voilà, perdre une élection municipale, ce n'est pas la même chose. C'est là où Michel Onfray peut apparaître excessif, mais il a raison de dire qu'on a des hommes politiques qui apparaissent impuissants, parfois en échec, irresponsables et qui continuent. Et ce n'est pas propre à Emmanuel Macron. Moi, je pense qu'il y a une révolte, là, contre une politique, contre le... Il n'y a qu'une seule politique possible. Il n'y a pas d'alternative. Je pense que les Français veulent des alternatives à ce qu'il leur est proposé. Ils ont voté Emmanuel Macron parce que c'était le moins inquiétant, mais ils ne sont pas forcément favorables à cette politique de technocrates, d'experts. Et ils veulent un retour précisément de la politique avec des visions du monde différentes qui se confrontent. Et c'est vraiment la difficulté d'Emmanuel Macron, c'est que sa vision du monde est peu claire, peu affirmée. À mon avis, elle est très la technocratie, c'est aussi une vision du monde. Et c'est vrai qu'il n'a pas l'air de vouloir en changer. Il aurait pu, dans son discours, dire... je suis conscient que ce que je propose, une partie des Français ont voté pour, mais une autre ont voté contre. On va faire des concessions, on va essayer de travailler tous ensemble. Et là, il a fait un peu de tactique politicienne en disant, en gros, si ça bloque, c'est pas de ma faute, c'est de la faute des oppositions.
Commissaire Lebars, je ne vais pas vous demander de commenter la vie politique française. Néanmoins, vous êtes un citoyen éclairé. Hier, dans son discours, le président n'a pas dit une seule fois le mot retraite, mais il a prononcé plusieurs fois le mot sécurité. Parce que là, évidemment, il allume des signaux pour... que la droite entende, qui va s'emparer du sujet de la sécurité. Il y a des partis politiques qui ont été élus, je pense à la France Insoumise, dont le slogan « la police tue » a effrayé bon nombre d'électeurs, qui sont aujourd'hui présents à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça vous inquiète ou pas ?
Alors, sur les mots du président, il a même associé justice, sécurité et justice. Ce tandem-là doit être indissociable. C'est la façon dont on avancera sur les grands sujets de sécurité. Et on n'a parfois pas avancé parce qu'il y avait un peu trop langue police et pas assez langue justice. Après, sur la représentativité nationale, moi, vous savez, je suis républicain, donc il y a des élus NUPS, LFI élus, très bien. On verra si parmi eux, en tant que député de la République, ils tiennent encore des discours irresponsables. On est lucide dans la police. On voit bien qu'il y a des slogans qui sont des slogans politiques. Pas pour autant qu'ils sont acceptables. Moi, je les trouve totalement irresponsables, voire dangereux, et puis insultants pour les policiers qui font un travail très difficile. J'espère qu'au cours de la mandature, on n'aura pas encore des positions comme ça, mais ce serait naïf d'y croire, puisque ça fait quelques années que ça dure. On verra comment ça évolue, mais de toute façon, nous, on est respectueux des gens qui sont élus à l'Assemblée nationale, comme de tous ceux qui nous gouvernent, et on considère que la police, c'est un maillon dans l'échelle républicaine. On se demande pourquoi, parfois, à qui profite le crime quand il y a une tentative pour affaiblir l'édifice. Si vous me permettez même 10 secondes de plus, je vois aujourd'hui une polémique très forte, dont on ne sait pas d'ailleurs si elle est sur une base de vérité qui vise deux élus de la France insoumise.
Alors, on va expliquer à nos auditeurs. C'est Raquel Garrido, Alexis Corbière, qui ont été accusés par un journaliste du Point de maltraiter leur femme de ménage qui serait sans papier. Il se trouve que le journal Le Point a retiré l'article, a présenté ses excuses au couple Corbière-Garrido.
Qui continue l'enquête.
Eux-mêmes, les deux mis en cause, ont porté plainte contre le journal Le Point. Voilà, c'était pour le petit point sur cette affaire.
Je voulais en parler parce qu'il y a une morale à cette histoire.
Laquelle ?
D'abord que la police ne tue pas, mais ça c'est d'une manière générale, je le répondrai toujours à ceux qui le disent. La police, elle fait des enquêtes, elle fait du travail de voie publique, et c'est ce qu'elle ferait dans une affaire comme celle-là si toutefois il y a une base, ou si le parquet poursuit. Premier point. Deuxième point, je vois pas dans cette affaire d'élus France Insoumise venir demander la démission de M. Corbière et de Mme Garrido, qui sont accusés sur la sphère réseaux sociaux comme ils le font pour d'autres personnes, comme ils stigmatisent d'autres personnes. Et ça nous rappelle une chose, c'est qu'il faut séparer ceux qui accusent de ceux qui enquêtent, de ceux qui rendent la justice, et qu'il faut arrêter de faire le procès des gens sur les réseaux sociaux. Chacun a droit à la présomption d'innocence. Vous voyez, je suis élégant. Raquel Garrido et Corbière inclus. Et ça serait bien qu'ils retiennent ça par rapport aux postures qu'ils ont prises eux-mêmes par le passé récent.
Ok, Karim Zeribi.
Oui, arrêter de faire le procès des gens sur les réseaux sociaux, on peut que tous être d'accord avec. Effectivement, on est dans une forme d'irrationalité et d'hystérie qui met à mal que nos institutions républicaines. Non, sur le point que soulevait Laurence Ferrari, c'est intéressant de voir que le président, effectivement, est venu sur le terrain sécurité-justice. Et c'est pas anodin de mon point de vue. Pas anodin parce que le président aurait pu évoquer la question des retraites. Or, il sait que cette question est explosive. Et il sait qu'il y a deux groupes, RN notamment et la NUPES, donc qui sont totalement opposés à la réforme en question vue par le président de la République. Et là, ce serait une levée de bouclier de plus de 250 députés d'emblée contre, effectivement, un projet de loi. Il est venu sur le terrain de la sécurité.
Plus la France Insoumise que toute la NUPES. Hein. Honnêtement, France Insoumise et Colo sont très, très contre la réforme à 65 ans.
Je pense que les socialistes qui ont été élus donc sont plutôt tendance effectivement à gauche du Parti Socialiste que social-démocrate. Mais enfin bref, donc je crois que cette réforme elle aura du mal à passer s'il avait présenté. En revanche, sur le terrain de la sécurité et de la justice, là il y a un accord potentiel à trouver très rapidement avec les élus LR qu'il va prendre au mot
et voir RN.
Mais concernant les amendements, parce que l'enjeu d'une alliance projet, rappelons quand même comment fonctionne l'Assemblée nationale, c'est la capacité de la majorité, certes relative, donc de prendre des amendements donc du groupe qui s'associerait effectivement à porter. Et là, je pense que le président a envoyé un signal disant qu'il serait prêt à prendre les amendements du groupe LR sur les enjeux de sécurité et de justice. Et il pourrait entamer la législature sur ce thème-là. Et on sait très bien qu'il y a une loi d'orientation d'investissement pour la police nationale, la sécurité intérieure, police et gendarmerie, qui est prévue, qui est dans les cartons et qui doit être présentée par Gérald Darmanin. Sur ce terrain-là, il serait fort de café que les élus LR ne suivent pas le gouvernement. Le
commissaire Lebar, c'est après Jean Garrigue.
Oui, tu viens d'en parler, Karim. C'est un des sujets qui nous inquiète dans la police nationale. Pour le coup, c'est cette LOPMI. Il n'y a pas de majorité pour la voter, loi d'orientation et de programmation au ministère de l'Intérieur. Là, effectivement, nous, en tant que policiers, on va voir si les discours sont suivis d'actes. Parce que tous les gens, quelle que soit d'ailleurs leur façon de se positionner sur les sujets de sécurité qui vont être amenés un jour à voter ou pas pour cette LOPMI, vont être obligés de sortir du bois, comme on dit socialement. J'ai du mal à imaginer que des élus dont la sécurité est un sujet pour eux, qui doit être d'ailleurs un sujet hors élection. Moi, j'aimerais bien que la sécurité, ça soit un sujet du quotidien et pas un sujet de friction. On va voir à peu près comment les uns et les autres se positionnent.
Jean Garrigue.
Non, on est au cœur de ce que je vous disais tout à l'heure. Je maintiens qu'il y a une crise et que ça, c'est résoudre la crise, justement. Bref, travailler comme ça, texte par texte, ça nécessite évidemment que le gouvernement fasse un pas et que les oppositions, celles qui sont susceptibles d'aller justement dans ce sens, sécurité, justice, puissent essayer aussi de faire un pas. Et moi, j'irai même plus loin. Moi, je pense qu'il faut, vous savez, il y a quelque chose qui s'appelle les niches parlementaires, c'est-à-dire un temps parlementaire qui est octroyé aux oppositions pour qu'elles fassent des propositions. Et moi, je pense qu'il faut l'augmenter, il faut le systématiser, il faut que même avant que commence la session parlementaire, on ait dit, il y aura tel quota de propositions venant des LR, venant du RN, venant de la NUP, qui soit accordé à l'opposition et qui soit la base de départ de la discussion. Parce qu'on sent bien que c'est une demande aussi des partis politiques, de ceux qui ont répondu, tous ces partis qui ont répondu « Attention, nous, on n'est pas là pour faire le programme du gouvernement. » Donc si vous leur donnez comme ça la possibilité d'être à l'origine des propositions de loi, je pense que ce serait la meilleure manière d'aborder ensuite
ce dialogue. Oui, c'est la capacité de redéfinir les règles du jeu sur l'ordre du jour, des thèmes abordés par le Parlement et l'ouvrir effectivement à l'opposition, aux oppositions.
18h30, on fait le rappel des titres de l'actualité avec Jeanne Cancard et on se retrouve ensuite.
Quelques heures après son élection en tant que présidente de groupe à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen a réagi à notre micro à l'allocution d'Emmanuel Macron hier soir. Selon elle, c'est au chef de l'État de faire le premier pas vers les chefs de partis d'opposition et non pas l'inverse, pour, je cite, tenir compte du choix des électeurs. La France veut remplir ses stockages de gaz à près de 100% au début de l'automne, c'est ce qu'a déclaré aujourd'hui Elisabeth Borne, pour assurer l'approvisionnement malgré la baisse des livraisons russes. Concrètement, le gouvernement va demander aux opérateurs de stockage d'acheter eux-mêmes du gaz pour remplir les réserves en complément des achats effectués par les fournisseurs officiels. Alors que l'année dernière, le nombre d'immigrés en France représentait 10% de la population au total, l'immigration semble aujourd'hui être un thème de préoccupation pour une partie des Français. Selon un sondage CSA pour CNews, 65% de ceux interrogés estiment l'immigration trop importante dans le pays. En revanche, dans la tranche 18-24 ans, 60% pense le contraire.
On se retrouve dans un instant dans le plateau de Punchline sur CNews et sur Europe 1. On évoquera encore la sécurité avec ce procès que je trouve vraiment exemplaire d'un chauffeur de camion qui a renversé puis tabassé un cycliste exprès sur une petite route de campagne. Ça s'est passé en janvier dernier en Charente-Maritime. A tout de suite sur CNews et Europe 1.
Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
De retour sur le plateau de Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec le commissaire Lebars, avec Karim Zerebi, Alexandre Devecchio du Figaro, Jean Garrigue, président du comité d'histoire parlementaire. J'aimerais qu'on s'intéresse au procès d'un chauffeur de camion qui a renversé puis littéralement tabassé un cycliste. Ce procès de la violence gratuite, ordinaire, barbare, banale, que ne supportent plus les Français. Il se tient aujourd'hui au tribunal correctionnel de Saintes, en Charente-Maritime. Les faits se sont déroulés en janvier dernier. Explication de Quentin Gribel. On verra dans un instant ce que le procureur a requis.
Ils sont près de 80 cyclistes réunis devant le palais de justice de Saintes en soutien à Michael, la victime du chauffard. Parmi eux, Teodoro Bartuccio, président de l'association Mon Vélo est une vie.
Si on est là, évidemment, c'est pour faire comprendre que toute la communauté cycliste en a marre. Et tout simplement, on est derrière la victime. Et surtout, on attend avec impatience cette décision qui, espérons, sera très ferme.
L'agression remonte à janvier dernier. Le cycliste, dépassé de près par un 26 tonnes, active sa caméra. Le camion change de trajectoire subitement et percute le vélo. L'accusé sort alors du véhicule et frappe à plusieurs reprises le cycliste. La victime s'en sortira avec plusieurs fractures et un traumatisme psychologique qui dure, d'après son avocat Michel Benezra.
La question, c'est même plus de se poser de savoir s'il va refaire du vélo ou il va monter dans une voiture. C'est qu'aujourd'hui, est-ce qu'il va sortir de chez lui? Puisque ce dernier s'enferme chez lui, a peur de sortir. Et je pense que cette décision qui va intervenir va participer finalement à sa guérison.
Selon l'avocat, dans 80% des cas où un cycliste est percuté sur la route, l'acte est volontaire.
Commissaire Lebars, c'est hallucinant parce que là, non seulement il se fait renverser par un chauffeur de camion, mais le type descend et le tabasse. Il lui donne des coups de poing.
Oui, c'est une illustration de la délinquance ordinaire avec...
On est sur une route de campagne, toute petite route de campagne.
Avec un déchaînement de violence totalement ahurissant. Il y a un nombre d'infractions incroyables, parce qu'il y a même le fait qu'il le tabasse à plusieurs. Enfin, je n'ai pas vu toutes les images, mais il descend à deux. Enfin, il y a tout ce qui est lâcheté, violence gratuite, avec des blessures en plus assez fortes. Après, quand on sort de cette affaire-là, qui n'est pas une affaire isolée, on voit très bien l'état de la société quand on voit les comportements routiers et finalement ce niveau de tension qui augmente sur le comportement routier. J'ai discuté avec un avocat il n'y a pas longtemps, il appelle ça la bordélisation de l'espace public, c'est assez vulgaire mais ça dit tout. Et quand on en est là sur l'espace public, et c'est un des vrais sujets de la délinquance, c'est tous les citoyens. Il n'y a pas des jeunes, des plus vieux, ou des gens des quartiers, ou des gens des beaux quartiers. Il y a des gens qui ne supportent plus d'être les uns à côté des autres sur la voie publique, qui en viennent aux mains pour un feu rouge, pour avoir pris la place de l'autre, un routier parce que le vélo devait peut-être le gêner, le motif complètement ahurissant. Et c'est extrêmement grave, parce que ça en dit long sur le fait qu'on peut passer à la violence pour quelque chose qui est totalement anodin, même si l'affaire est très grave. Donc moi j'espère évidemment, mais j'en doute pas, que la condamnation sera sévère. On pourrait peut-être se dire que ça aurait été mieux que ça soit immédiatement, deux jours après, pour que ça vienne tout de suite, une fois de plus. On revient sur les moyens de la justice. Mais ce sujet de la violence sur l'espace public pour des motifs de circulation routière, c'est très inquiétant, parce que ça en dit long sur l'état de la société.
Et on a vu l'augmentation des chiffres de la mortalité sur la sécurité routière, essentiellement liée à des accidents de vélo aussi. Juste sur les réquisitions, le procureur a requis là pour cet homme 3 ans d'emprisonnement, dont 2 avec sursis, donc il n'ira évidemment pas en prison. Annulation du permis de conduire avec impossibilité de le repasser avant 2 ans. Pas de mandat de dépôt, obligation de soins aux cyclistes. C'est minimum ça? C'est service minimum ou pas?
J'ai envie de dire que si la victime, et je ne connais pas tous les faits, estime que ce n'est pas le cas, il pourra faire appel. Tout comme le parquet d'ailleurs, qui peut, s'ils ne sont pas satisfaits du jugement qui sera rendu. Mais il faut attendre de voir le jugement qui va être rendu. Je ne vais pas relativiser cette affaire, mais on n'est que sur une affaire de violence commise sur la voie publique et lors d'une infraction routière. Ça dépend des antécédents du chauffeur. Ça ne paraît pas beaucoup comme ça, mais on ne va pas non plus mettre 20 ans de prison à des gens qui se battent et qui commettent des blessures. Donc il faut rester objectif. Mais il faut que ça soit, il faut que ça marque le coup. Après, encore une fois, vous savez, moi, les petites peines, je pense qu'en France, si on avait eu la culture des petites peines enfermées ou punir vite plutôt que d'essayer de trouver des solutions pour désengorger les prisons, on aurait sans doute évité beaucoup de comportements qui se sont reproduits avec ce sentiment d'impunité qui s'est répandu.
C'est Jean-Michel Decazes qui suit ce procès pour nous. Il nous tiendra au courant ce que le tribunal s'est retiré pour délibérer. Karim Zerebi, ça participe, ce genre de scène, à l'exaspération des Français en réalité. Le Stade de France dans un autre registre, les agressions contre les policiers, on va en parler aussi dans un instant. Mais ça, ce genre de séquence, violence gratuite, vraiment pour rien, ça, les Français ne le supportent plus. Ils ont l'impression que personne ne fait rien.
Ce que les Français ne supportent plus, c'est cette forme d'accumulation des violences émerge dans la société française. Et j'ai envie de dire, de toutes parts, sans créer une forme de psychose, mais force est de constater qu'il y a peu de lieux où vous pouvez prétendre à être protégé de tout acte de violence. Quand vous êtes un cycliste sur la voie publique, très franchement, dans une route de campagne, qui vous dit que vous allez être percuté par un camion, mais que plus que d'être percuté par un camion, le chauffeur va descendre, non pas pour
vous
être dans une posture d'assistance à personne en danger, mais de vous rouer de coups en présence de qui ? De son fils qui est mineur. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte dans l'esprit de ce chauffeur. Il est accompagné de son fils qui est mineur. L'exemplarité du père dans son comportement dans la société. Non seulement il percute un chauffeur, mais comme je viens de le dire, il ne descend pas voir comment il va pour éventuellement lui porter secours. Non, il descend pour le rouer de coups devant son gamin qui est mineur. Et qui voit son père agir de la sorte. Et il se dit quoi, un gamin, quand il voit son père agir de la sorte, avec l'autorité qu'il incarne et qu'il représente ? Ben, mon père, il a un comportement peut-être qui est normal. Et ce comportement qui est normal, il y a une forme de mimétisme qui peut s'installer rapidement. Donc c'est doublement scandaleux ce qu'a fait ce chauffeur, vis-à-vis, effectivement, de son comportement sur le plan civique, mais vis-à-vis aussi de son autorité de père. Il risquait 3 ans d'emprisonnement avec 45 000 euros d'amende. On lui a mis, effectivement, 2 ans et sursis.
C'est la
réquisition. Bon, il ne fera pas de prison parce que si c'est ça, il le portera un bracelet. Et derrière, il y aura peut-être une peine d'intérêt général qui sera corrélée. Mais c'est vrai qu'on a de quoi s'interroger. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce chauffeur qui est connu de la justice, disait le défenseur. Donc en plus, connu de la justice, qui a un casier judiciaire. Donc, ça veut dire que c'est quand même quelqu'un qui n'est peut-être pas tranquille du cerveau. Donc, mais pour vous dire, la réalité, c'est que qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce père de famille qui est au volant de son outil de travail pour réagir de la sorte.
Oui, bien sûr.
C'est de la folie.
Jean Garrigue, pourquoi c'est symbolique, cette scène ?
Ce qui se passe, c'est symbolique de cette dislocation de nos sociétés. Pour ça, je reviens au concept de crise.
Oui,
il y a une crise sociétale, il y a une crise, tout est lié. Une crise du commun, une crise de la solidarité, du respect de l'autre, du respect aussi des hiérarchies, du respect du père. On est dans quelque chose qui est alors il y a des tas d'explications, des tas de raisons. Moi, notamment, je pense que l'hyper-individualisme de nos sociétés en est un facteur majeur, y compris dans l'éducation qui est donnée aux enfants et la manière dont on a un peu trop tendance à les mettre un peu sur un piédestal pour réagir contre des éducations qui étaient au contraire beaucoup trop fermes, beaucoup trop sévères il y a une cinquantaine d'années. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui s'est disloqué dans le sens, ça se retrouve dans le politique. C'est pour ça aussi que vous avez cette France morcelée qui ne se retrouve pas, qui ne se reconnaît plus dans ses élites, parce que on est là dans on ne se supporte plus. Ce que vous disiez sur la voie publique, les cyclistes comme moi qui fait beaucoup de vélo sur ces petites routes sont sans cesse sous la menace de voitures ou de camions qui vous frôlent.
Oui, comme là, si la route vous n'existiez pas, en plus, y a
comme
pas
si
place.
Vous n'existiez pas. C'est-à-dire que c'est l'existence de l'autre qui est nié. Alors, ce à quoi il faut rajouter pour toute une génération aujourd'hui, le fait qu'ils vivent beaucoup dans les jeux vidéo, etc., où là, on est dans un monde, là aussi, virtuel, etc., où la vie, la mort n'ont pas beaucoup de sens. Bon, si vous mettez tout ça en commun, là, vous avez ces résultats-là. Je ne pense pas que ce routier-là est forcément un adepte des réseaux sociaux. Hein. Mais et je trouve que la valeur d'exemplarité dont parle Karim, elle est fondamentale. Parce que, par exemple, vous avez dans les écoles, moi je suis dans un milieu où il y a beaucoup d'enseignants, je vois de plus en plus des parents d'élèves qui viennent insulter les enseignants, qui viennent insulter d'autres parents d'élèves, qui viennent
c'est scandaleux, ça, on le dit pas assez. Tu as raison de le souligner.
À
une certaine époque, vous étiez corrigé à la maison lorsqu'on vous avait effectivement engueulé ou sanctionné à l'école. Aujourd'hui, c'est le professeur combien
c'est de plus en plus fréquent.
De la folie. Hein,
on passe souvent sous le tapis, mais c'est de plus en plus fréquent.
Alors, Alexandre Vecchio, juste sur cette agression et après oui, on parlera des policiers.
Oui, essayons d'élargir, effectivement, tous les repères fondamentaux sont tombés par terre, et à l'école, on a l'impression qu'aujourd'hui, l'école est un service, et qu'il n'y a plus effectivement de hiérarchie. Avant, l'instituteur, le professeur, représentait une autorité. Aujourd'hui, on vient formuler des créances, l'engueuler, et donc tout est à refaire, mais ça, c'est un excès de démocratisation, j'ai envie de dire. Il y a moins de démocratie au Parlement, mais on est, oui, effectivement, dans un individualisme. On peut même rajouter, si on veut parler de l'école, que l'école instruit de moins en moins, et que malgré tout, vous voyez qu'au bac, les élèves ne savaient pas ce que signifiait ludique. Je pense que certains individus ne sont plus capables de verbaliser ce qu'ils ressentent, et ils sont dans la pulsion pure et simple. C'est peut-être ce qu'on voit là, quelqu'un qui est hyper brutal. Ensuite, sur ce cas, moi, je trouve qu'il devrait sans doute faire de la prison ferme, parce que moi, je ne suis pas en sécurité de le savoir dans les rues. Il aurait pu le tuer doublement. D'abord avec son camion, ça peut être un accident. Et ensuite, il l'achève à coup de poing. Donc, ce n'est pas simplement la bagarre, deux individus, ça chauffe entre les deux, il y a un coup de poing qui est échangé. Il le lâche, quoi. Donc là, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas de prison ferme. Et je rejoins ce qui a été dit. Je pense qu'on devrait aller plus vite, une justice plus rapide. Et effectivement, les petites peines se sont montrés efficaces aux Pays-Bas. Ils ont construit beaucoup de prisons et aujourd'hui, elles sont inoccupées parce qu'effectivement, ils ont mis en place cette politique de petites peines et que les gens ne commettent beaucoup moins d'infractions. Et du coup, ces prisons deviennent même parfois des hôtels. Ça, c'est pour l'anecdote, mais pour montrer que c'est efficace.
Ça peut marcher.
Et on dit souvent que la prison est l'école du crime. Pense que, d'une part, elle n'a pas pour fonction normalement de réhabiliter. Elle a d'abord pour fonction de protéger de la société. Et ensuite, elle peut quand même avoir une vertu éducative. Je pense que s'il y a une sanction rapide, une peine courte, ça peut dissuader un certain nombre.
Protéger et réhabiliter.
Il s'est passé 6 mois entre les faits et le procès. C'est quand même rapide, commissaire.
C'est super rapide. Dans certains endroits, c'est très rapide. Il y a d'autres endroits où ça pourrait être 2 ans, effectivement.
Et sur les vertus de la prison, la peine ferme et rapide.
On en est plus que convaincus. Parce que je vous dis, il y a une démonstration qui est mathématique. Quand on parle des policiers qui interpellent des gens qui ont 50, 60, 70, 80 faits, c'est bien qu'il y a un problème et qu'il n'y a plus rien qui leur rentre dans la tête pour arrêter. Donc ces gens-là n'ont jamais vu la prison. On parle de faits réitérants. Pour ceux qui seraient incarcérés sur des petites peines, moi j'y crois parfaitement. Après, quand l'argument qu'on a en face souvent, c'est « oui, mais la prison est un incubateur à délinquance ». Ben oui, évidemment, comme on y mélange tout le monde et qu'il n'y a pas assez de place, si on met les gens à 5 par cellule, ça ne marche pas. On fait rencontrer les petits délinquants avec les gros. Il faut faire des prisons adaptées en fonction du parcours criminel qu'on a.
J'aimerais qu'on parle des violences qui sont chaque jour dirigées contre les policiers. On va en parler systématiquement sur cette antenne. Voilà. Les refus d'obtempérer, c'est inadmissible. C'est toutes les 20 minutes en France. Là, on a une scène qui s'est déroulée à M, tout près de Lille. Une vidéo amateur, là encore une fois, quelqu'un qui filme avec son téléphone portable. Il y a une voiture que 6 policiers tentent d'arrêter, elle qui fait une marche arrière, qui entraîne plusieurs policiers. Voilà, on entend les coups de feu qui ont été tirés par les policiers, sans faire de blessés, n'ont pas réussi à toucher le conducteur. Le conducteur a réussi à prendre la fuite. Il a été retrouvé, interpellé par les policiers, connu des services de police, évidemment. Un policier blessé, parce qu'il a fait une marche arrière, quitte à leur rouler dessus. Ça, c'est le quotidien, encore une fois.
Alors, c'est le quotidien qui, en plus, ne date pas d'hier. Moi, la seule fois dans ma vie professionnelle sur le terrain où j'ai failli faire usage de mon arme, c'est sur un refus d'obtempérer. C'était en 97, et je me souviens encore du lieu et du nom de l'auteur. Et je ne l'ai pas fait parce qu'il faisait une marche arrière et que je n'étais pas en légitime défense à l'époque, alors qu'il avait essayé de me rouler dessus. Vous voyez, ça ne s'oublie pas, ça. Donc, d'abord, ce n'est pas nouveau. Le deuxième point, c'est qu'il n'intéresse que votre antenne, pas que votre antenne, heureusement, mais il n'intéresse la sphère publique que quand il y a des... ce qui est présenté comme des victimes, mais c'est souvent les auteurs, mais quand il y a usage de l'arme à feu par la police. Autrement dit, là, dans cette affaire-là, si c'est les policiers qui se font rouler dessus, ça n'intéresse pas grand monde. Alors je vais vous faire celle d'hier à Caen, un motard traîné sur 300 mètres sur le périphérique à Caen, sur 300 mètres, il est à l'hôpital. La veille, le week-end, à Paris 18, 3 policiers refusent d'obtempérer, qui sont shootés par une voiture dans une petite rue, sont tous les 3 aussi blessés à l'hôpital. L'avant-veille, dans l'Hérault, un refus d'obtempérer aussi. Et on peut remonter comme ça tous ceux qui n'ont intéressé personne, jusqu'à celui qui a intéressé tout le monde, parce que les policiers ont riposté. En fait, je crois que le bon angle, c'est de dire que c'est ni les policiers qui sont auteurs ou fautifs ou victimes, ni les délinquants, c'est que c'est l'ensemble de la population qui risque le comportement de ces chauffards. Les meilleurs exemples à prendre, c'est tous ces refus d'obtempérer qui, en fait, sont de la délinquance routière au quotidien, parce qu'il n'y a pas besoin du barrage de police, en fait, pour qu'ils fassent n'importe quoi. Ils roulent sans permis, la plupart du temps, sans assurance, sous alcool, sous stupéfiants, ils roulent trop vite. Et en fait, à chaque fois qu'on a un drame, tout le monde crie, quelle horreur, un petit garçon qui est percuté pendant un rodéo. On revient sur le problème de la bordélisation de l'espace public, sur le fait qu'il n'y a plus du tout de respect des règles, et qu'il y a des petits... Je crois que les infractions routières en général sont passées dans le bas du spectre où on s'est dit on a tellement d'autres choses à faire que sur le bas du spectre on n'a pas été sévère. Je dis pas on la police, hein, mais c'est finalement pas une priorité. Ça l'est sur les comportements routiers. Si vous voulez, les gens comme vous et moi, on a un permis, on nous enlève 4 points, 6 points. Ça crée le sentiment aussi d'injustice pour ceux qui finalement se font avoir, mais ceux qui n'ont pas le permis, pas d'assurance et qui s'enfuient. Il faut être intraitable avec ces gens-là, et c'est un vrai sujet des comportements à venir, parce qu'il y a énormément de refus d'obtempérer. Je crois que c'est 20 000, hein, le chiffre à jour, donc c'est plusieurs par jour, et à chaque fois, c'est les policiers qui trinquent.
Ou les gendarmes.
Quand on vous enlève des points parce que vous avez dépassé de 5 ou 6 km/h, alors
il faut remettre une échelle des valeurs.
Il faut remettre une échelle des valeurs, et effectivement, les normes, on a l'impression quand même que tout est un peu perturbé, là. Non, moi, je crois qu'on l'a dit sur le cas précédent, on le dit là, et on le dira certainement demain... sur un autre fait divers, on a plus un problème d'application effective de la sanction que de capacité à voir nos forces de l'ordre intervenir et mettre hors d'état de nuire un délinquant. Et pourtant, je fais partie de ceux qui disent qu'il faut encore étoffer nos effectifs et qu'il nous faudrait effectivement plus de bleus partout dans les rues. Mais dans le contexte actuel, avec la configuration, on voit que les forces de sécurité intérieure, police et gendarmerie, mettent la main sur les délinquants. Mais c'est le « qu'est-ce qui se passe après » qui pose problème. Donc, et ce « qu'est-ce qui se passe après ?» Oui, nous ne pouvons pas rester dans cette forme de statu quo. Il nous faut avoir une réponse différente. Parce qu'on voit que la réponse actuelle n'est pas satisfaisante. L'exemple qu'on évoque assez souvent des Pays-Bas, il faut peut-être le tenter. Il faut le tenter sur...
Peine courte, mais exécutée.
Peine courte, rapide, exécutée. Mm-hmm. Mais peine d'enfermement, disons-le clairement. Parce qu'il faut à un moment
C'était
donné...
au programme de la droite.
Marquer le coup. Mais ça, je serais d'avis de le faire sur des actes qui sont ceux des violences. Particulièrement et précisément.
Oui, bien sûr.
Parce que c'est ça qui augmente. On le voit dans la société, dans les statistiques. C'est les violences. Et pour mettre un coup d'arrêt à ces violences, il nous faut effectivement décréter une forme de priorité nationale pour retrouver une société française un peu pacifiée, une cohésion un peu retrouvée, et dire, voilà, nous n'accepterons pas l'inacceptable. Ce ne sera pas négociable. Un acte de violence, il sera sanctionné par une peine de prison ferme. Donc, et immédiatement. Pas remis à un an, ou à un an et demi, ou à deux ans. Et ça, si nous ne le faisons pas, mais il me semble qu'on n'a pas fini de régler le problème, de voir ce problème
se développer. Ça, à mes yeux, ça ferait partie d'une des priorités d'un plan dans lequel on pourrait se retrouver, y compris, alors là, soyons très clairs, sur ce type d'enjeu, de la rapidité, de la fermeté, de la force de la justice, eh bien, de la sanction pénale, je pense qu'il y a
Il peut y avoir une union nationale, là.
Oui, et il y a des projets, des propositions du côté des LR, du côté du Rassemblement national, qui peuvent tout à fait, qui devraient être prises en compte par le pouvoir.
Ça pose quand même une des questions, pour revenir au sujet qui était celui d'avant du président de la République. Il n'a pas été très clair sur est-ce que le RN fait partie d'une potentielle union nationale et de l'arc républicain. Je trouve ça dommage de ne pas profiter sur des sujets où peut y avoir un consensus des députés RN. Ça, c'est une preuve de sectarisme.
Rien n'empêchera le RN de voter.
Les Français veulent aussi dépasser ce sectarisme.
Mais rien n'empêchera le RN de voter. Lorsqu'un projet de loi est sur la table, tu peux le voter.
Si vous ne faites pas partie de...
Mais ce n'est pas ce qu'il leur a dit.
Il y a eu des choses différentes selon les...
Marine Le Pen dit qu'il a estimé que c'était respectable. Elisabeth Borne a dit une chose différente. Elisabeth Borne a dit autre chose. Commissaire Le Bar.
Je vais compléter ce qui a été dit sur le plateau. Vous savez, un magistrat, avant qu'on dise qu'il est de droite, de gauche, qu'il est idéologue, s'il a le panel, les outils pour que ses décisions soient suivies des faits, il va prendre les bonnes décisions. Les magistrats, c'est la réalité, hein. Quand ils ont 200 délinquants dans la journée en Seine-Saint-Denis, je vais prendre l'exemple que je connais le mieux, et qui savent qu'ils n'ont que 10 comparutions immédiates le soir, ils mettent eux-mêmes le frein à main parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas saturer les comparutions immédiates. Donc déjà, il faut les outils. Après, on pourra juger d'une bonne politique pénale. J'ajoute aux outils ce que dit Karim ou ce qui est dit sur ce plateau, les petites peines, évidemment, et un autre système carcéral. On peut aussi aller voir ce qui se passe chez les voisins, un système carcéral privé, semi-privé. Si on enlève les gens qui sont dans le spectre de la violence, s'ils ne sont pas dangereux pour les autres ou pour eux-mêmes, on peut imaginer un système d'auto-incarcération, ça existe, quasiment une forme d'hôtellerie avec évidemment un contrôle, un badge, et puis des sanctions très fortes si ce n'est pas respecté. Mais il y a des gens qui peuvent être incarcérés différemment parce qu'un escroc, ce n'est pas quelqu'un qui a tapé sur des gens à 5 entreprises. Il faut séparer les thèmes et incarcérer en fonction des profils.
Oui,
et si on commence à raisonner comme ça, et y compris sur les mineurs, on avancera. Si on n'avance pas sur ce champ-là, on demandera toujours ce que fait la police, mais on aura toujours le même constat.
Je suis d'accord, David, mais comment on sait qu'il faut prioriser en politique,
oui,
parce que derrière,
vite, hein, si
oui, mais qu'il faut prioriser, pas privatiser, prioriser. Oui. Le champ d'action de la politique. Je pense qu'on a quand même une urgence vitale qui est celle effectivement de répondre au problème des violences. Donc là, il faut que nous ayons une réponse forte. Et c'est vrai que sur la délinquance des mineurs, donc mineurs isolés ou pas, mais délinquance des mineurs, on a 50 centres d'éducation renforcés. Qu'avons-nous fait sur ce dernier quinquennat? Donc il faut ouvrir ce quinquennat, non pas en attendant un bouveau de la sécurité ou des états généraux de la justice en fin de quinquennat, mais il faut l'ouvrir avec ça, avec des lois d'orientation. On a des lois de programmation. Pour 5 ans, il faut financer les infrastructures.
Tout dernier mot, derrière, commissaire Lebar, s'il reste 10 secondes.
Je rappelle que le problème du centre éducatif fermé, c'est qu'il n'est pas fermé.
C'est
bien
c'est
ça le problème, il faut aussi changer la loi. C'est-à-dire que soit on change de système, soit on change la loi, soit on crée un nouveau système. Mais un mineur auteur qui va dans un centre éducatif, s'il va en ressortir, il revient le lendemain.
Ok, merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Je vous retrouve dans un instant sur Europe 1 et sur CNews. C'est Christine Kelly et ses invités pour Face à l'info. Bonne soirée sur nos deux antennes.
Europe 1. Punchline. Laurence Ferrari.
On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec Louis de Raguenel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis.
Bonsoir Laurence.
Bruno Jeudy de Paris Match. Bonsoir. Et Gilles Maintré, essayiste, président d'Electis. Bonsoir mon cher.
Bonsoir
Gilles.
Laurence.
Allez, on va parler de cet après-discours d'Emmanuel Macron. A-t-il convaincu les Français? Non, on l'a vu. Hein, ils n'ont pas été très convaincus par le discours sur le fond du président hier, suivi par plusieurs millions de téléspectateurs. Et il y a aussi les oppositions politiques. On va écouter tout de suite Marine Le Pen, qui a été élue chef du groupe parlementaire Rassemblement National à l'Assemblée.
Il n'y avait pas grand-chose dans ce discours. Je pense qu'il y a deux choses qu'il faut retenir. La première des choses, c'est qu'Emmanuel Macron entend, semble-t-il, à la différence de son ministre des Relations avec le Parlement, M. Véran, considérer que toutes les forces politiques méritent d'être respectées. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, lorsqu'il fait reporter la responsabilité sur les partis d'opposition de... devoir faire un premier pas. Je crois qu'il n'a pas compris ce qui s'est passé, en fait. Ce qui s'est passé, c'est que c'est à la majorité de faire le premier pas pour amodier son projet, pour tenir compte précisément de l'avis des électeurs. Bon, voilà. Je pense que le fonctionnement de l'Assemblée nationale l'obligera à comprendre cette réalité.
Marine Le Pen au micro de Gauthier Lebret. Sur le fond, l'analyse est impeccable, Louis.
Je trouve que c'est assez juste, et alors elle n'est pas la seule à le dire, d'ailleurs tous les chefs de parti d'opposition disent à peu près la même chose. Ce qui était assez étonnant hier soir dans la déclaration d'Emmanuel Macron, c'est qu'il demande aux partis de dévoiler leur jeu, de faire des propositions sur les textes qu'ils aimeraient voir ou qu'ils seraient disposés à voter. En réalité, ça doit venir du président de la République, puisque de toute façon, l'initiative des textes vient du gouvernement, les projets de loi viennent du gouvernement. Donc c'est à Emmanuel Macron de dévoiler son jeu, et ensuite, normalement, aux partis d'opposition, d'éventuellement discuter des fameux compromis auxquels Emmanuel Macron a fait référence. Donc je trouve que Marine Le Pen est plutôt dans le vrai, dans ce qu'elle dit, et ça montre une chose, c'est que moi, l'impression que j'ai, c'est que Emmanuel Macron sait pertinemment, en fait, que en faisant cette proposition, les partis n'étaient pas en mesure de répondre favorablement. Et donc, il souhaite paradoxalement le blocage. C'est ce qu'il ne dit pas, en fait. C'est complètement contre-intuitif. D'un côté, il appelle à une nouvelle méthode de gouvernement, le compromis. Donc, ces belles idées. Et puis, de l'autre côté, en fait, il les empêche de pouvoir répondre favorablement. Et voilà, moi, Emmanuel Macron souhaite le blocage.
Ouais. Alors, hier, François Bayrou disait que ça le stimulait, en tout cas, la situation Bruno Jeudy. Là, vous pensez qu'il en est à souhaiter le blocage ?
Moi, j'ai été frappé hier soir par le côté posture du président. Je l'ai trouvé plus politicien que les politiciens qu'il dénonçait en 2017. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il veut susciter, prendre à témoin l'opinion pour dire « il bloque ». Et c'est ce qui aujourd'hui on constate, puisque finalement ils lui répondent par une posture également classique des chefs de parti qui lui ont répondu dès hier soir, le renvoyant dans ses buts. Je suis assez d'accord avec lui sur le fait que le président, pour organiser un compromis, ça veut dire que d'abord le président doit montrer qu'est-ce que dans son programme il est prêt à amender, puisque il a fixé un cadre assez strict finalement à ce compromis, à bâtir ces nouveaux compromis. En gros, c'est bon, ni dette ni impôt, ça pourquoi pas, mais c'est quand même à périmètre constant de son programme présidentiel. Or, c'est bien ça la difficulté, c'est-à-dire que pour faire un compromis, il faut que le président fasse un pas, et pour que les oppositions qui sont prêtes à en faire un avancent également. Donc là, on est dans le blocage. Est-ce qu'on est dans un blocage définitif ou est-ce que ça va avancer au fond quand les textes vont arriver? Puisque c'est ça, finalement. C'est ce qu'en coulisses, Elisabeth Borne et d'autres essaient de faire. C'est-à-dire, bon, bah, le premier texte, ce sera le texte pouvoir d'achat. Est-ce que là-dessus, ils peuvent avancer sur un accord? Ou est-ce qu'ils peuvent avancer, non pas sur un accord, mais sur le fait qu'il y ait de l'abstention à défaut d'adhésion, parce que l'abstention permet aussi de diminuer la majorité absolue qu'il faut obtenir sur le texte. On a bien compris que sur le collectif budgétaire, ça se terminerait en 49-3, puisqu'ils ont le droit à un 49-3 par session. Mais je trouve que de toute façon, tel que le président a présenté sa façon de bâtir des compromis nouveaux, ça allait dans
en fait,
le
mur. C'est pas lui qui veut les faire, il veut que ce soit les oppositions qui le fassent.
Et donc
c'est ça qui est hallucinant.
Donc, forcément, c'est posture contre posture, et aujourd'hui, on est déjà dans une situation de blocage qui n'est peut-être pas définitive, parce que de toute façon, c'est 4 jours.
Le
tour législatif, ils vont en reparler, et puis c'est pas fini.
Oui, Gilles Mintré, votre analyse.
Moi, je l'ai trouvé sur la défensive, en fait, hier soir. Finalement, assez faible dans sa présentation, parce qu'il commence déjà par rappeler qu'il a été élu, que c'est lui qui est légitime. On avait envie de dire, mais pourquoi est-ce qu'il a besoin de le rappeler? C'est que s'il y a peut-être un point d'interrogation dans la tête de tout le monde. Ensuite, on voit bien que le plus petit dénominateur commun, s'il ne se passe rien, s'il n'y a pas d'accord, c'est effectivement, ça va être des majorités par texte. Texte par texte, effectivement, comme ça a été très bien rappelé, l'initiative est au gouvernement, et on va avancer, comme ça, à vue, texte par texte. Donc lui, Emmanuel Macron, il cherche à avoir quelque chose qui serait un tout petit peu mieux que ça. Donc on a eu d'abord l'Union nationale, ça ne fonctionnait pas.
Je pense que c'est Bayrou qui a pris ses vessies pour des lanternes, que Emmanuel Macron ne l'a jamais
fait. C'est le désir pour la réalité.
D'ailleurs, heureusement, parce que franchement, imaginez, c'est quand même plutôt pour des situations de guerre, d'union sacrée.
Oui, alors, parce qu'on n'arrête pas de parler. Alors, cette réserve, Bruno, je dis qu'on n'arrête pas de mentionner l'exemple allemand. La grande coalition.
C'est pas l'Union nationale en Allemagne.
Non, mais parce qu'ils n'ont pas ce terme-là. Mais ce qu'on appelle la grande coalition, qui était un petit peu la même chose, c'est que tu vois, on peut trouver, un peu comme en Italie aussi, tous les partis à un moment, ou quasiment tous les partis au gouvernement, c'était un peu
la constitution.
Je suis d'accord avec ça, mais en tout cas, il y a eu cette première idée d'une espèce de coalition très large, en tout cas, bien au-delà des fameux 40, et non pas 30, comme le disait le président de la République, des fameux 40 qui manquent.
Mais pourquoi il a dit 38?
Mais bien sûr que si, c'est fait à dessein. Parce qu'il avance, il dévoile pas tout son jeu. C'est qu'en fait, il est en train de récupérer l'UDI et les élus de droite.
Ils l'ont pas dit, mais en tant qu'il en a récupéré. En tout cas,
ça, c'est les 30 députés qui lui manquent pour faire sa majorité.
On est d'accord. Donc, effectivement, depuis hier, on se demande un petit peu où sont ces fameux 30. Mais donc, il cherche à avoir quelque chose intermédiaire entre cette grande coalition qui ne construit pas et puis le vote au texte par texte. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, demander aux partis de définir leur ligne rouge et leur ligne verte est une façon de pouvoir avancer. En tout cas, c'est le seul chemin possible pour avoir autre chose que la navigation à vue. Et effectivement, il n'a pas d'autre choix. Simplement, il a habillé ça d'un discours assez maladroit, que c'était perçu que par tout le monde comme ça.
Il y a quelque chose qui est assez cocasse dans cette histoire, c'est qu'il demande donc aux partis d'opposition de dévoiler un peu leur jeu, de dire ce sur quoi ils pourraient être d'accord et ce sur quoi ils ne seront pas d'accord. Et en fait, il a fait exactement le même exercice la veille, en recevant tous les chefs de parti. Et d'ailleurs, Fabien Roussel, quand il sort de l'Élysée, il dit « Moi, il n'y a aucun problème, je pourrais envisager de rejoindre un gouvernement d'union nationale, mais avec telle, telle et telle condition, et en gros, Emmanuel Macron ne l'acceptera pas, donc le gouvernement d'union nationale ne se fera pas. » Donc en fait, Emmanuel Macron, il connaît déjà leur réponse, au moins sur la forme.
Alors pourquoi il joue à ce petit jeu de leur dire 48 heures?
C'est ce que vient de dire Bruno Joly.
Dans 48 heures.
Il va revenir, déjà, occuper l'espace. Ça fait réfléchir tout le monde, ça fait cogiter. Alors, pour, contre, essayer de diviser.
Les éditorialistes politiques, peut-être, oui.
Essayer de diviser. Et en tout cas.
Le pays profond, je ne suis pas sûr, mais bon.
Non, mais au sein des groupes politiques, ça turbine un peu quand même.
Bien sûr.
Il y a des réflexions, il y a parfois des divisions, il y a des désaccords. Et de fait, c'est vrai, il n'y a aucun. qu'un groupe politique qui échappe à cela. Et ensuite, ce qu'il veut, c'est pouvoir se présenter à son retour de sa tournée internationale, en disant « j'ai proposé l'Union nationale, personne n'en a voulu ». J'ai proposé au parti de jouer le jeu, d'expliquer sur quoi ils seraient d'accord pour faire des compromis. Personne ne m'a répondu, ils n'ont pas travaillé. Et donc, je pense qu'il veut arriver à cette conclusion-là. Et c'est pour ça que moi, je suis convaincu qu'il veut le blocage pour, à terme, faire en sorte que les Français finissent par se lasser et réclament une dissolution et finissent par se dire « bon, bah, en fait, on a voté avec notre cœur, nos tripes, mais on voit bien qu'en fait, ça ne permet pas de faire avancer les choses ». Je pense que c'est ce qu'il a en tête. Après, la suite, on ne la connaît pas.
Et affaire à suivre sur Europe 1. On fait une toute petite pause, on se retrouve dans un instant. On parlera de la déclaration d'Elisabeth Borne, qui décrit une situation inédite, intéressante pour une première ministre, dont le nom n'a pas été cité une seule fois hier par le président. A tout de suite.
Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari.
Et on se retrouve avec Louis de Ragnel d'Europe 1, Bruno Jeudy de Paris Match, Gilles Maitré, essayiste, président d'Electis. On va écouter Elisabeth Borne, toujours première ministre, évidemment. Elle parle d'une situation inédite. Elle était en visite en Ile-de-France, dans une usine de gaz. Et effectivement, elle estime que le président Macron n'a pas dressé un ultimatum aux partis politiques en leur demandant de clarifier leur situation. On écoute Elisabeth Borne.
On est dans une situation inédite où le président de la République a pu échanger avec les forces politiques pour entendre finalement jusqu'où les uns et les autres sont prêts à s'engager pour avoir une majorité pour agir au service des Français. Nous attendons une explicitation de ce qu'ils sont prêts à faire d'ici demain, comme le président de la République l'a évoqué. Et puis pour ma part, je vais échanger aujourd'hui et demain avec les présidents de groupes qui sont désormais élus à l'Assemblée nationale. Donc je suis au travail pour trouver le chemin pour nous permettre de continuer à voter des textes à l'Assemblée nationale et donc à répondre aux attentes de nos concitoyens.
Voilà pour Elisabeth Borne. Quelle crédibilité politique a-t-elle, Bruno Jeudy, alors que le président n'a pas cité une seule fois son nom hier dans son discours ?
C'est vrai que Emmanuel Macron lui a vraiment pas rendu service. Alors ça avait déjà mal démarré pour elle, parce qu'on sait que c'est un plan B, Elisabeth Borne, si je peux me permettre, puisque bon, maintenant le récit...
Même un plan F, hein, je crois.
Le récit a été fait d'une Catherine Vautin qui était première ministre le samedi et finalement le président a renoncé sous la pression de ses alliés politiques de macronistes. Et c'est Elisabeth Borne qui a été nommée à Matignon, qui était quand même qui était initialement son premier choix. Mais enfin bon, voilà, passons. Du coup, il avait déjà pas aidé. Là, hier, c'est quand même très surprenant qu'il ne dise pas Madame la Première ministre et je lui ai demandé de consulter les chefs de parti, puisque bon, voilà, donc. Bon, on a l'habitude, hein, il cite rarement ses premiers ministres. Hein. Il a rarement cité Édouard Philippe et rarement cité Jean Castex aussi. Donc ce n'est pas une
surprise. Mais pas du tout, c'est rare.
Mais pas du tout. Et surtout dans la situation où est Elisabeth Borne. C'est-à-dire que c'est vrai que le profil d'Elisabeth Borne, si on prend, c'est-à-dire ancienne préfète, haut fonctionnaire, une expérience politique ministérielle, c'est tout, mais pas une expérience politique réelle, même si elle a été élue dimanche députée du Calvados. C'est une expérience politique qui est assez faible au regard de la situation qui demande une grande expérience politique et surtout capable de négocier les compromis, les accords de gré à gré dans l'hémicycle et puis surtout une présence presque du verbe qu'il va falloir avoir dans l'hémicycle. Donc ça va être très compliqué pour Elisabeth Borne. Là, il ne l'aide pas.
Mais il ne la débranche pas.
Il ne la débranche pas, c'est-à-dire qu'elle a présenté sa démission, il l'a refusée. Donc aujourd'hui, elle tente de trouver ses députés, cette trentaine de députés. J'ajoute quand même qu'elle a... Moi, j'ai, pour Paris Match, je l'ai suivi, j'ai rencontré beaucoup ces derniers jours. Et j'ai plutôt reconsidéré ma position parce que je pense que d'abord, elle est très combative. Moi, je trouve que voilà, c'est quelqu'un qui ne se décourage pas. Deux, c'est vrai qu'elle a négocié, sous le quinquennat précédent, probablement
les réformes les plus difficiles.
Et surtout, elle a obtenu, par exemple, des commissions mixtes paritaires entre les sénateurs et les députés qu'elle a obtenues. Très peu ont obtenu autant qu'elle. Donc, elle a aussi cette capacité à pouvoir discuter. Elle est assez neutre aussi, c'est-à-dire qu'elle ne va pas déclencher non plus la colère, une colère énorme chez les LR. Elle est capable de discuter quand même aussi avec une partie des socialistes. Bon, ça peut être aussi un atout, mais ce sera sans doute insuffisant dans la situation politique où se retrouve Emmanuel Macron.
Gilles Maitré, il a d'autres solutions, Emmanuel Macron ou pas, pour l'instant ?
Non, mais faut pas se raconter d'histoire. Quand on dit qu'on cherche une trentaine de députés supplémentaires, on voit bien que la seule arithmétique tenable dans la durée, c'est avec les Républicains. On le sait depuis dimanche soir. Donc, quand on dit que Elisabeth Borne n'est pas assez politique, c'est parce qu'effectivement, elle n'est pas issue de la droite, elle ne connaît pas individuellement, elle ne connaît pas les députés de la droite. Or, c'est avec eux qu'il va falloir discuter texte par texte. Et quand François Bayrou dit aujourd'hui... il la condamne presque. Hein. Il dit qu'il faut quelqu'un, un Premier ministre ou une Première ministre qui soit plus politique.
À son avis.
Oui,
parce que le portrait qu'il décrit, c'est plutôt Béarnais.
Voilà.
Ce que je veux dire.
Suivez son doigt. Donc c'est ça aujourd'hui le problème. Et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que vraiment on va être condamné à... Est-ce que Emmanuel Macron cherche le blocage? Est-ce que les Républicains cherchent le blocage? C'est pas certain. Il y a peut-être un chemin qui soit pas du tout. Alors ça, il y aura aucun accord de coalition, qui sera même pas une espèce de majorité élargie, mais peut-être un accord sur 2-3 réformes qui, une fois de plus, c'était des réformes qui venaient de la droite et qui donneraient un minimum de visibilité. Donc, en tout cas, Christian Jacob, qui est partant, a dit depuis le début que les LR ne seraient pas là pour bloquer les institutions. Donc,
partant, mais pas partant, en fait.
Mais ce qui est intéressant, c'est que tout le monde dit on n'est pas là pour bloquer, à part peut-être un peu LFI. Mais globalement, une fois qu'on pose la question, alors on rentre dans le détail, on demande aux députés LR, voilà, sur tel texte, qu'est-ce que vous êtes prêts à voter et quels sont les points non négociables. Et sur les points non négociables, à chaque fois, c'est toutes les propositions phares d'Emmanuel Macron. Donc on voit que
pas complètement chez les LR, précisément. Non, c'est pour ça que c'est le seul endroit.
Sur l'augmenter, sur les questions de SMIC,
sur la retraite à 65 ans, sur l'éducation, sur même les éléments de...
qu'il a encore envie de la faire, parce que hier soir, il n'y avait pas de lien.
Oui, bien sûr, mais en tout cas, on voit bien que où est-ce qu'on retrouve...
Par principe, vous avez raison, bien sûr.
Donc sur les programmes, le programme le plus proche...
C'est celui des LR.
Bien sûr.
Ça reste les LR. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les LR avaient accusé Emmanuel Macron. Souvenez-vous d'être un président.
Ce que j'observe ensuite sur Elisabeth Borne, et qui est quand même assez frappant, c'est qu'elle est quand même très démonétisée politiquement. Parce que il s'agit non seulement d'essayer de se battre à l'Assemblée nationale, de faire un collectif avec ses ministres, mais aussi d'avoir le soutien de ses propres troupes. Il y a quand même les deux poids lourds de la majorité, François Bayrou, Modem, Édouard Philippe, Horizon, qui la lâche, qui ne la soutiennent pas et qui appelle clairement à un changement de Premier ministre.
Édouard Philippe,
Il le fait à la Philippe. Oui. Donc c'est moins bourru que François Bayrou. Mais honnêtement, je l'ai regardé et écouté avant-hier soir, on comprenait assez clairement qu'il ne la soutenait pas. Enfin, on a vu meilleur soutien pour un membre de la majorité.
Ouais, mais je fais quand même une dichotomie avec François Bayrou qui, franchement, là...
Et François Bayrou,
ce qu'il a fait hier, c'est un désengage dans les...
Il saute avec les deux pieds dans la mare. Voilà, c'est autre chose.
Et d'ailleurs, au passage, Louis, je trouve que François Bayrou, il se paye Elisabeth Borne sous le mot de techno, il y en a marre des technos, et je trouve que c'est même une pierre de coup, c'est-à-dire c'est Elisabeth Borne et Alexis Kohler. C'est bien ça que vise François Bayrou. Oui. C'est pas seulement Elisabeth Borne. À travers Elisabeth Borne, j'ai même envie de dire qu'il veut atteindre Alexis Kohler.
Vous avez raison, mais je pense qu'il y a quand même cette volonté à l'intérieur même de la majorité que ça ne fonctionne pas. En vrai, vous appelez des députés, il n'y a personne qui est emballé par Elisabeth Borne, et si ça pouvait changer assez vite, globalement, ça arrangerait à peu près tout le monde. En tout cas, elle ne bénéficie pas... vous avez vu beaucoup de parlementaires depuis une semaine qui disent Elisabeth Borne, elle est géniale, vraiment, on veut que ce soit elle. Parce qu'en fait, tout le monde voit bien la difficulté à laquelle elle est confrontée aussi, avant même d'aller se confronter aux oppositions, c'est d'avoir cette capacité à conduire une majorité avec ces deux fauves, François Bayrou et Édouard Philippe, qui ne lui feront aucun cadeau. On le sait, ça a déjà commencé, mais on sait qu'à l'avenir, ils ne feront aucun cadeau. Ensuite, sur la question de l'accord texte par texte, moi je pense que c'est de fait, de toute façon, ce qui va se passer. Parce que les députés LR, et je rejoins Bruno Jeudy sur ce qu'il disait tout à l'heure, qui ont été élus globalement pour quasiment tous dans une opposition très frontale face à Emmanuel Macron, leurs électeurs ne leur pardonneraient pas de soutenir un peu en cachette Macron. Et du coup, je pense que réellement, le nouveau mode de gouvernement, ça va être de la négociation amendement par amendement. Tout va se terminer très tard, en séance de nuit, on va rappeler des parlementaires. Ça va être épuisant. Nous, on va travailler la nuit.
C'est que simplement savoir quels textes vont être présentés, il va bien falloir...
Et il faut qu'il dévoile
le calendrier législatif. Il va falloir lui-même le discuter avec les oppositions et fait avec LR.
Ça va être long,
parce que
comme l'a
c'est
dit
sûr
Emmanuel Macron.
Il n'y a qu'un certain nombre de textes qui sont susceptibles de recueillir une majorité. Et donc c'est là que je dis que c'est un tout petit peu plus loin que juste texte par texte, que probablement il y a la possibilité de se mettre d'accord sur un certain calendrier de texte. Et après, effectivement, ça va être amendement par amendement. Les oppositions,
mais en fait,
les LR vont demander à
toujours été le cas
à la préparation.
Non, mais il y a toujours eu, quelle que soit la couleur politique des gouvernements, des députés de droite qui votaient certains amendements proposés par un gouvernement de gauche et inversement. Et même le RN, lors de la dernière législature, hier, ont voté un certain nombre de textes d'Emmanuel Macron, sauf que ce n'était pas assumé comme tel. Et voilà, c'était des députés, on leur a mis conscience, ou peut-être par calcul, j'en sais rien, qui avaient envie de soutenir l'action du gouvernement sur une mesure parce qu'ils considéraient qu'elle était juste.
Bruno Jeudy.
De toute façon, Elisabeth Borne n'a bien compris dimanche soir que c'était compliqué. D'abord, elle a pris la parole très tard. On a bien vu qu'à l'Élysée, ça avait tergiversé sec. Que le lundi, elle voulait déjà remettre sa démission le lundi, qu'en gros, c'était pas le moment. Emmanuel Macron, visiblement, a pris beaucoup de temps à prendre la mesure de ce qui s'était, passé. Et de ce qu'on sait, c'est un peu Bayrou et Philippe qui l'ont un peu secoué pour prendre une initiative. Et cette initiative, ça a été la consultation des chefs de parti qui a abouti à sa prise de parole. Parce que même hier soir, quand on l'écoute, dans la deuxième partie de son intervention...
Très courte, d'ailleurs.
Il y a même un côté... c'est pas si grave.
C'est ça. Ouais.
Ça va aller. Ça... Comme le pensent les étrangers, d'ailleurs. Parce que pour eux, ne pas avoir la majorité absolue, c'est pas grave du tout. Sauf que c'est pas le même système politique. Ça peut marcher si vraiment le président se met en position de compromis. Avec une première ministre qui est la femme ou l'homme de la situation. Là, en l'occurrence, le président a l'air de prendre ça en se disant « Bon, ça va le faire, il fait un peu de tactique politique, tout ça. » Et puis, il n'aide pas sa première ministre à rentrer dans le détail tout de suite pour peut-être établir un calendrier, comme il s'agit de montrer. Donc, je trouve qu'on est dans une situation un peu surréaliste, mais au fond d'un système politique, ça vaut aussi pour les oppositions qui... Ben, la cinquième, elle vit sur le fait majoritaire. Et donc, vivre sur une majorité relative, pas une petite majorité relative comme en 1988, où il manquait 14 députés à Michel Rocard. Il avait les hommes, il avait la popularité surtout pour convaincre un coup le PC, un coup les centristes de voter ces textes. Non, là, il n'y a pas de popularité à l'exécutif. Je vous rappelle qu'il n'y a pas d'état de grâce, qu'ils sont déjà très impopulaires, les deux, qu'il n'y a pas beaucoup d'expérience politique.
Elle a plongé de 7 points dans le baromètre Paris Match.
7 points cette semaine dans le baromètre Paris Match avant... Le week-end électoral, donc je ne vous dis pas les enquêtes qui vont arriver, comment ça va être le dégelé. vous ajoutez à ça qu'il n'y a pas d'expérience politique du côté d'Elisabeth Borne. Là, franchement, on va au-devant d'une assemblée bien paralysée. Hein.
Un tout petit mot, Gilles.
Oui, un tout petit mot. C'est qu'on parle tout les oppositions, d'ailleurs, c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron hier. En fait, les oppositions, il y a quand même d'un côté l'extrême droite, de l'autre côté, l'extrême gauche, parce qu'on dit ce qu'on veut, tant que le Parti socialiste, les Verts, n'ont pas marqué leur différence avec le programme de la France insoumise, c'est un programme d'extrême gauche et c'est un parti d'extrême gauche. Donc en fait, les oppositions, il y en a une d'opposition, enfin c'est-à-dire, il y en a deux, enfin une et demie.
Il y a le Rassemblement national, et puis
il y a les quelques socialistes dissidents, enfin je veux dire, c'est ça ce qu'on appelle pudiquement les oppositions. Donc Emmanuel Macron a quand même parlé des fractures hier, je trouve que le mot il l'avait répété. Est quand même fracturé comme jamais. On n'arrête pas de nous dire c'était comme on a imposé la proportionnelle. C'est pas du tout la proportionnelle. Ce sont que des députés élus au scrutin majoritaire. Donc il y a maintenant plusieurs parties de la France qui a basculé, qui aujourd'hui vote pour des partis extrêmes qu'il faut récupérer. Et il y a peut-être là un terrain d'entente quand même avec les LR.
Petite pause. On se retrouve tous les quatre dans un instant sur Europe 1 pour Punchline. À tout de suite.
Punchline sur Europe 1. Laurence Ferrari.
On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec nos débatteurs Louis de Ragnel, Bruno Jeudy, Gilles Maîtré. Un petit mot de la présidence de la commission des finances de l'Assemblée nationale. La bagarre va commencer. On sait que... Alors, expliquez-nous, Gilles Maîtré, si elle revient obligatoirement...
Poste éminemment important d'abord.
C'est poste éminemment important parce qu'on a accès aux dossiers fiscaux, on peut bloquer des réformes, etc.
On a des moyens de contrôle spécifiques.
Exactement. C'est vraiment un poste stratégique. Oui. Est-ce qu'elle revient automatiquement, cette présidence, au premier groupe de l'opposition politique?
Alors non, Laurence Ferrari. Donc moi j'ai été regardé dans le règlement de l'Assemblée nationale, article 39, alinéa 3, ne peut être élu à la présidence de la commission des finances qu'un député, qu'un député appartenant à un groupe s'étant déclaré d'opposition.
Donc,
c'est tout ce que dit le règlement.
Donc c'est l'enfumage de
Marine Le Pen et du RN je suis le principal groupe d'opposition, donc j'ai le droit. Évidemment, c'est ce qui s'est passé dans les mandatures précédentes, puisque puisque par ailleurs il y a une pratique qui veut que la majorité ne vote pas, mais c'est une pratique, c'est pas dans le règlement, et donc évidemment il n'y a que l'opposition qui vote, donc c'est le premier groupe qui obtient la tête, puisque c'est là où il y a le maximum de députés qui votent. Mais ce n'est pas la réalité. D'accord. Ce n'est pas la réalité. Bon. Et quand on, voilà, vous, on a même entendu dire à Marc Fesneau que c'était constitutionnel que ça revienne. Bon, on a entendu quand même beaucoup de choses.
Vous énoncez le règlement, c'est vrai. Oui. Il faut se souvenir que cette règle existe par le fait de Nicolas Sarkozy qui a imposé cette tradition intégrée dans le règlement.
Comme d'autres traditions d'ailleurs d'équilibre, comme la présidence de la Cour des comptes, comme la présidence de la Cour des comptes à quelqu'un qui venait de l'opposition, ça fait partie des décisions Nicolas Sarkozy de balancer.
Vous aurez observé que la présidence de la Cour des comptes, ça, Emmanuel Macron s'est assis sur cette tradition.
Absolument.
Donc c'était ça. Ensuite, ça a été généralisé aux conseils régionaux qui font exactement la même pratique. Jusqu'à présent, c'était effectivement non pas un groupe d'opposition, mais le premier groupe d'opposition qui désignait en son sein le président. Ça a été le cas pour Didier Migaud, Jérôme Cahuzac, du temps de la présidence Sarkozy. Ensuite, on a eu Gilles Carrez et du temps de la présidence Hollande, puis Éric Woerth du temps de la présidence Macron. Donc aujourd'hui, il me trouve, je pense, franchement, ce serait normal que ce soit le premier groupe
Pas du tout, parce que c'était le premier groupe, parce que les députés d'opposition se réunissent et votent. Il se trouve que jusqu'à présent, le premier groupe d'opposition faisait le maximum de voix, parce qu'il n'avait pas de majorité contre lui.
Mais si aujourd'hui, Bruno Jeudy, une majorité
des députés d'opposition de la Commission des finances pense qu'il n'est pas légitime ou pas pertinent que le RN soit élu, c'est tout à fait démocratique.
Sur le papier, le premier groupe, c'est Marine, c'est le groupe du Rassemblement National. Il se trouve que la NUPES, c'est 4 groupes.
Oui, mais...
Et donc, s'ils ont une candidature commune, ce qui est en train de se décider au moment où
nous parlons... Oui, sauf que ce n'est pas un groupe.
Parce qu'ils ont un intergroupe.
Oui, mais non, mais l'intergroupe n'existe pas dans le règlement. Donc, en fait, on entre dans l'argotie juridique.
Mais non, c'est beaucoup plus simple que ça. Ce sera la NUPES qui aura le privilège
des compromis d'opposition. Tous les deux en même temps, personne ne comprend rien.
Il y a quand même un contournement d'une règle qui a fonctionné depuis 3 quinquennats.
Oui,
mais... Je dirais que la règle elle est contournée, mais
non,
avec,
elle n'est pas contournée.
On ne va pas vous mettre d'accord. Qui peut avoir cette présidence de la commission.
Je pense que demain, présidence va se jouer entre le candidat du Rassemblement National, donc M. Tanguy, qui est
ancien directeur adjoint de campagne,
proche de Marine Le Pen, donc qui va être le candidat à ce poste pour le Rassemblement National. Et la surprise, c'est qu'au moment où nous parlons, la NUPES est en train de se mettre d'accord sur un seul candidat.
D'accord.
Donc c'est ça qui va sans doute changer la règle. Qui pourrait être Valérie Rabault, la députée socialiste. Et si c'est le cas, la messe est dite. Ce sera Valérie Rabault qui sera la présidente. Et ça veut dire que les Insoumis acceptent au sein de la NUPES qu'il y ait une seule candidature et que ce soit la socialiste Valérie Rabault.
Et ça rassurera au passage, ça va surprendre peut-être nos auditeurs, Emmanuel Macron, parce qu'il avait proposé à Valérie Rabault, elle avait été testée pour être possiblement première ministre avant que le choix ne se porte vers Elisabeth Borne. Et Valérie Rabault, c'est clairement la gauche de gouvernement. C'est d'ailleurs Éric Woerth, qui était le président de la Commission des finances, qui était LR à l'époque, s'entendait, avait des très bonnes relations avec elle. C'est vraiment quelqu'un de sérieux. Moi, juste pour revenir sur le débat impossible...
Je rejoins
plutôt Bruno Jeudy. En fait, ce qui est assez incroyable, c'est que cette NUPES... cette NUPES, en fait, ce qui est dingue, c'est que politiquement, elle n'a pas d'existence, puisque politiquement, il n'y a pas de groupe NUPES. Il y a 4 groupes distincts qui montrent, et c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu par le passé, une capacité, quand il y a des enjeux extrêmement importants, notamment pour des postes à récupérer, que tous ces députés sont peut-être... capable de s'entendre, simplement pour prendre une responsabilité. Et donc, face à cette logique-là, effectivement, que soit le Rassemblement National ou les Républicains, effectivement, ils n'ont quasiment aucune capacité à combattre, puisque numériquement, ils seront mécaniquement écrasés. La question, et je trouve qu'il y a deux enjeux qui vont se poser demain. Un, c'est est-ce que réellement, donc Marine Le Pen est menacée? Deux, est-ce que menacée pour prendre la présidence de la Commission des Finances, pour que son groupe prenne la présidence de la Commission des Finances. Et la deuxième chose, c'est est-ce que la NUPES est capable de s'entendre là sur un poste. Est-ce que vraiment tous les députés de la NUPES vont voter pour un seul candidat?
C'est un vrai test.
Et ce sera un test d'unité politique alors, qui sera toujours très fragile, puisque à mon avis, ce sera au gré des circonstances. Il faut quand même savoir que Fabien Roussel tire à boulet rouge sur tous les responsables de la NUPES, et à commencer par Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est ce qui est fascinant, voilà, et je termine simplement par là, c'est que la gauche est capable, dans ce genre de circonstances, de s'unir alors que parfois tout les oppose, là où la droite n'y arrive absolument jamais.
Gilles Maintré ?
Non, mais on est en train de créer un problème démocratique là où il n'y en a pas. On est en train de donner des arguments à Marine Le Pen en disant, mais oui, effectivement, il y a une règle, alors qu'il n'y a pas de règle.
Okay,
il y
a une règle que c'est le premier
parti d'opposition.
Je crois qu'on a compris votre point de vue.
Bidouillage, du coup.
Mais non, mais c'est clair, la règle, c'est qu'on élit, et si jamais, c'est ça la démocratie. Si une majorité sont contre l'idée que quelqu'un qui est en minorité accède à un poste, c'est la démocratie qui ne soit pas.
Je suis pas sûr que la LFI adore Valérie Rabault. Non, mais c'est pour des raisons opportunistes.
Mais justement, on est en train de créer un conflit de légitimité, parce qu'on va dire, mais oui, est-ce que la NUPES est un groupe ou pas un groupe? Alors Marine Le Pen va dire, mais non, mais c'est pas un groupe, c'est un intergroupe. Sereinement, je veux dire, il y a une commission, c'est déjà formidable qu'on ait mis dans le règlement que ce soit pas quelqu'un de la majorité, et une fois de plus, c'est grâce à Nicolas Sarkozy, eh bien, c'est déjà très bien, on va sereinement demain voter, et Marine Le Pen n'aura pas de légitimité à dire qu'on lui a volé la commission. Je pense que c'est important de le dire, parce qu'elle le dira, mais ce n'est pas la réalité du texte.
Mais si on regarde groupe par groupe, globalement, c'est le premier parti d'opposition.
Oui, bien sûr.
Et d'ailleurs, tous les éditorialistes, les commentateurs, et même au sein de la NUPES, ils considéraient, au lendemain de l'élection législative du deuxième tour, que c'était terminé et que Marine Le Pen allait récupérer la présidence de la Commission des Finances, en tout cas son groupe. Et donc, à la faveur de ces accords que seule la gauche est capable de faire, ils vont parvenir, peut-être,
Bruno,
à l'obtenir.
Bruno, lundi, le président sera de retour dans notre pays, après ça, non?
Ah non, parce qu'après, il y a le sommet, il sera encore à Munich. Ensuite, il part à Lisbonne et à Madrid, sommet de l'OTAN. Donc, il reviendra mercredi soir à Paris. Il fait juste un petit saut de puce samedi prochain à Paris.
Assez longue.
Mais oui.
Donc, quand il dit « je donne 48 heures aux députés », c'est parce qu'il revient après le sommet de Bruxelles pour repartir en Bavière. Donc, il est là quelques heures entre ces deux
samedi.
Et donc, c'est pour ça qu'il a fixé cet ultimatum. Nous, on a appelé ça, on a beaucoup appelé ça un ultimatum de 48 heures, ce qui, à mon avis, déjà est de mauvaise augure par rapport au fait que pour qu'on parvienne à bâtir des compromis, il faut un peu plus de 48 heures.
Donc là, et après, mercredi d'après, une nouvelle séquence va s'enclencher ou le Parlement va démarrer dès lundi
Il y a les élections encore des présidents d'assemblée, présidents des autres commissions. Donc il y a quand même toute une semaine d'installation d'assemblée.
D'accord, ok. Donc quand est-ce qu'ils vont rentrer dans le dur? Quand est-ce qu'ils vont s'occuper des Français
en fait? Ce sera le début juillet. Vous voyez, j'ai fait une petite note avec toutes les dates. Mercredi 29 juin, il y a la réunion des présidents de groupe pour répartir les postes à l'Assemblée nationale. Et ensuite, donc la date d'après, c'est on attend le lundi 4 ou le mardi 5 juillet, peut-être une semaine après, pour le discours de politique générale. Et c'est à ce moment-là que débute la session parlementaire.
Qui le prononce, si c'est Elisabeth Borne ou pas. Allez, bonne soirée à tous. Merci beaucoup d'être venu ferrailler ce soir avec ardeur sur le thème de cette présidence de la Commission des Finances. Gilles Maintré, Bruno Jeudy, Louis Dragnel. Bonne soirée sur Europe 1. Dans un instant, Mouloud Achour, Verveine Underground. Bonne soirée.
Europe 1, 18h-20h.
Punchline, Laurence Ferrari.